Monsieur le Président de Fidji, cher José, chers amis, toutes les vérités sont faciles à comprendre une fois qu'elles ont été découvertes. Mais bien évidemment, le défi est de les découvrir. C'est ainsi que Galilée au moins exprimait un certain nombre de choses sur lesquelles je voudrais me référer aujourd'hui. La vérité, c'est que le processus de retour du carbone atmosphérique dans les terres est un remède naturel contre les changements climatiques. Il aiderait le monde à atténuer les effets du changement climatique et à s'y adapter. Séquestrer le carbone dans les terres auxquelles il appartient peut réduire considérablement la dégradation des terres, protéger les communautés contre la sécheresse et stimuler leurs moyens de subsistance. Cette vérité a toujours existé, mais a toujours été négligée. Vous le savez et je le sais. Alors pourquoi cette vérité est-elle négligée? Tout d'abord, je dirais qu'il y a eu une politique d'exclusion climatique. Récemment encore, environ un pays sur trois n'avait que très peu à gagner du débat politique autour du changement climatique. Jusqu'à présent, l'atténuation des effets sur les terres ainsi que l'adaptation ont été sous-financées, correspondant aux miettes laissées par les principaux négociateurs climatiques. La majeure partie des ressources climatiques ont en effet été consacrées à l'atténuation dans quelques grands pays principaux émetteurs de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les ressources, que ce soit le mécanisme de développement propre, RED+, etc., tous ces grands mécanismes se sont principalement concentrés sur deux secteurs, l'énergie et la forêt. Pourtant, 60 à 65 pays sur cette planète, soit un tiers des pays que nous connaissons, et souvent les plus pauvres, sont considérés comme des pays à faible émission et à faible couvert forestier. Ils émettent moins de 1 tonne de CO2 par personne et par an. Ainsi, la réduction de leur émission n'est pas franchement prise en compte, malgré le fait que souvent ce sont ces mêmes pays qui sont les principales victimes du changement climatique. Les pays dont la couverture forestière, par exemple, est inférieure à 10% ne sont généralement pas inclus ou admissibles à des projets liés à la foresterie. Ce sentiment d'exclusion a commencé à changer à Paris. De nombreux efforts ont été réalisés pour rassembler tout le monde autour de la table, pour dédier plus équitablement des fonds à l'adaptation comme à l'atténuation. Maintenant, nous devons nous assurer qu'une suite concrète soit donnée à ce nouveau sentiment d'inclusion. Nous devons veiller à ce que chaque secteur et chaque personne puisse jouer un rôle. Et là, nous devons faire face à un deuxième défi, qui est celui de la complexité de la science climatique. À Paris, tous les pays ont pu définir leurs propres ambitions. L'agriculture, et je dirais plus généralement le secteur des terres, figure dans les plans d'atténuation et d'adaptation de plus de 100 pays. Et ceci est normal, car un focus sur les terres peut assurer l'atténuation pour faire en sorte que tous les pays partis soient part de la solution du défi climatique. Ainsi, lorsque l'article 6 de l'accord de Paris appelle les parties à se pencher sur un nouveau mécanisme reposant sur des bénéfices en matière de développement durable, je pense que la Terre doit constituer une grande partie de l'équation. À mon avis, si le mécanisme de développement propre actuel n'a pas fonctionné comme nous l'espérions, c'est parce que justement, ces co-bénéfices en matière de développement n'ont pas été suffisants. Il est vrai aussi que les questions de l'agriculture et de l'utilisation des terres dans les négociations climatiques ont toujours été controversées, malgré le fait qu'il soit reconnu que la dégradation des terres et le changement climatique forment des boucles de rétroaction de sorte que l'utilisation intensive des terres tend à augmenter les émissions, tandis que la hausse des températures moyennes et la variabilité des précipitations exacerbent la sécheresse. Le GIEC indique par exemple que le potentiel total d'atténuation économique des mesures afférentes à l'offre dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie et autres utilisations des terres se situe entre 7 et 10,6 gigatonnes de carbone par an d'ici 2030. Malgré tout cela et les bonnes résolutions de Paris, nous progressons lentement. L'accord de Paris ne parle pas explicitement des terres et des sols alors qu'il constitue le plus grand réservoir terrestre de carbone. Pourquoi non ? Eh bien, je dirais que la science, ou du moins comment la science est présentée, fait aussi partie du problème. Suite aux discussions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de pays, je peux vous assurer qu'ils ont adopté avec enthousiasme la question du rôle des terres et du carbone organique des sols. Mais ils étaient presque universellement consternés par la complexité apparente de la question. En effet, s'il est aisé d'estimer le stock de carbone au-dessus du sol, c'est un peu plus complexe avec le carbone en dessous du sol. Dans le passé, nous avons en fait collectivement souligné la complexité de la question. Cependant, nous n'avons pas assez travaillé sur les possibilités existantes. Nous avons aujourd'hui des directives pour la mesure du carbone organique du sol qui ont été élaborées par le GIEC. Cependant, nous n'avons pas les outils pour le rendre réalisable au niveau national. Eh bien, j'ai une grande foi dans les personnes rassemblées ici. Les méthodologies, les techniques d'échantillonnage et de modélisation doivent être harmonisées. Nous devons trouver des moyens novateurs de partager des données et de renforcer les capacités des pays. Si nous y parvenons, nous aurons une chance unique de contribuer au prochain rapport spécial sur le changement climatique, la désertification, la dégradation des terres, la sécurité alimentaire et les flux de GES dans les écosystèmes terrestres. Faites-le bien et votre travail sera primordial pour l'élaboration des rapports soumis dans le cadre des 3 conventions de Rio. Ce sera la clé pour suivre les progrès accomplis vers l'atteinte des objectifs du développement durable et en particulier de l'indicateur 15.3 sur la dégradation des terres. J'ai hâte d'entendre comment nous tous et vous pouvez nous aider pour faire en sorte que la gestion du carbone organique des sols soit un élément clé dans la résolution de nombreux problèmes auxquels le monde est confronté aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de succès au cours des prochains jours. Merci encore.
Your Excellency, Georgi Konroti, President of the Republic of Fiji and also the President of COP23. Mr. José Graziano da Silva, Director General of FAO. Mrs. Monique Barbier, Executive Secretary of United Nations Convention to Combat Desertification. Mrs. Elena Mananenkova, Deputy Secretary General of the World Meteorological Organization. Excellencies, ladies and gentlemen, it is a real honor for me to have this opportunity to speak before you. But from now, I'm seeking your indulgence because I am going to speak about 15 minutes. I will be the longest one to speak, but I have 4 objectives for this statement. The first one is to share with you some gaps in knowledge, the gaps we discovered in the 5th assessment report. The second objective is also to speak about some key finding of this special report. The third is to share with you the huge workload of IPCC and how we can benefit from this symposium to feed all the activities that we have to deal with in the future. And the last one, and this is very, very important objective, is to invite you to be involved in the process to invite you to participate to in the work of IPCC. So I commend the Food and Agricultural Organization of the United Nations for hosting this meeting, together with other sponsoring organizations. In fact, it is hard to imagine a more important subject. Climate change is the great challenge facing humanity. Ensuring secure and adequate food supplies is one of the prime responsibilities of government and a core interest of the scientific community. Thus, this symposium goes to the heart of the Sustainable Development Agenda. Climate change poses the risks for food security, while land use offers both challenges and opportunities for addressing climate change. Managing the competing demands on land that arise from this is a major policy challenge. It requires robust science to arrive at sound, evidence-based solutions. Excellency, ladies and gentlemen, IPCC identifies many gaps in the fifth assessment report. The first gap was improved global high-resolution data set of crop production systems, including crop rotation, variety selection, fertilization, and tillage practices. Grazing areas, including quality and intensity of use management, and freshwater fisheries and aquaculture. Another gap is globally standardized and homogenized data on soil as well as forest degradation and a better understanding of the effect of degradation on carbon balances and productivity. Third gap, improved understanding of the mitigation potential, interplay and costs, as well as environmental and socioeconomic consequences of land use-based mitigation options, such as improved agricultural management, forest conservation, bioenergy production, and afforestation of the national, regional, and global scale. And the fourth gap, better understanding of the effect of changes in climate parameters, raising carbon dioxide concentrations and nitrogen deposition on productivity and carbon stocks of different types of ecosystems and the related consequences for land-based climate change mitigation potentials. It is very encouraging to see that so many of these topics will be addressed at this week's symposium. Excellency, ladies and gentlemen, now let me survey some of the relevant findings on this subject for the fifth assessment report of IPCC. Of course, the IPCC Working Group 2, which deals with vulnerability and adaptation, identified that the reduction in terrestrial carbon sinks is one of the key risks for the future for coming decennies. Carbon stored in terrestrial ecosystems is vulnerable to loss back into the atmosphere, resulting from increased fire frequency due to climate change and the sensitivity of ecosystem respiration to rising temperatures. Adaptation options include managing land use, including deforestation. I can give two examples. One example for the boreal zone. Arctic ecosystems are vulnerable to abrupt change related to melting of permafrost, spread of shrub in tundra, and increase in pests and fires in boreal forest. There are few adaptation options in the Arctic. Another example from the Amazon. Moist Amazon forests could change abruptly to less carbon-dense forests. Drought and fire-adapted ecosystems may develop here. Policy and market measures can reduce deforestation and fire. Also, there are other findings in the fifth assessment report. Climate change is already shaping adaptation. For example, agricultural industries and farms in some countries are relocating parts of their operations or changing land use in response to recent climate change or expectation of future change. There are already some action taken. Since 2000, greenhouse gases emissions have been growing in all sectors except Afulu. Afulu accounted for about one quarter of net anthropogenic greenhouse gas emissions in 2010. Scenarios reaching atmospheric concentration levels of about 450 parts per million of CO2 equivalent by 2010, consistent with the likely chance of keeping temperature change below 2 degrees C relative to pre-industrial levels, include substantial cuts in anthropogenic greenhouse gas emission by mid-century through large scale changes in energy systems and potentially land use. That means your activity can participate a lot in this process. Of course, also mitigation scenarios reaching about 450 parts per million of CO2 equivalent in 2010 typically involve temporary overshoot of atmospheric concentrations, as do many scenarios reaching about 500 to 550 parts per million. Overshoot scenarios typically rely on the availability and widespread deployment of bioenergy with carbon capture and storage and afforestation in the second half of the century. The availability and scale of these and other carbon dioxide removal, or what we call CDR technologies and methods, are uncertain. And CDR technologies and methods are to varying degrees associated with challenges and risks. In baseline scenarios, greenhouse gas emissions are projected to grow in all sectors, except for net carbon dioxide emission in the Afulu sector. Afulu plays a central role for food security and sustainable development. The most cost-effective mitigation option in forestry and afforestation, sustainable forest management, and reducing deforestation, with large differences in their relative importance across region. In agriculture, the most cost-effective mitigation option are crop plant management, grazing land management, and restoration of organic soils. Policy governing agricultural practices and forest conservation and management are more effective when involving both mitigation and adaptation. Bioenergy can play a critical role for mitigation, but there are issues to consider, such as the sustainability of practices and the efficiency of bioenergy systems. That means there are the funding of IR5 and that give many solutions. Excellency, ladies and gentlemen, from the perspective of the IPCC, this symposium could not be more timely. The IPCC is holding a session next week at which it will consider the outline of one of three special reports that is undertaken over the next 6 years. It is, as Monique said, it is the special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems. It is a long title. I can invite you to think about what acronym. It is very long. But this is why, don't worry, we will look for a shorter title. And now we are about to propose climate change and land as a short title. The draft outline to be considered next week, that means to be considered to be approved, consists of 7 chapters. The first chapter is framing and context. It is a global one. Second, land-climate interactions, desertification. The fourth, land degradation. The fifth, food security. Sixth, interlinkages and integrative responses option. And the seventh one is emerging risks decision-making and sustainable development. Thus, if you make a sort of comparison between this outline and the theme in this symposium, they are the same. And I think we are hoping that all efforts can fit all the chapters. Also, we have not just this special report. We have many other special reports. I'd like to tell you about the rest of the IPCC works program, much of which will also benefit from the work of this symposium. Still, the next week session, we will also approve the outline of special report of climate change and the oceans and the cryosphere. Both these reports are to be delivered in 2019, and we will start selecting authors for them next month. I hope that the names of many people here will be put forward. We are keen to increase the proportion of experts from developing countries in our author teams. We already approved the outline for the special report for 1.5, and now also we are looking to have a good involvement from you to participate in this special report of 1.5. Why? Because it is the report that was requested by COP21 in Paris to inform the evaluation of progress about this mitigation option. Also, we are now currently finalizing the selection of authors for the 2019 refinement of the 2000 IPCC guideline on national greenhouse gases and voluntaries. Here again, we have chapter 2, which is dedicated to Afulu. Here we are expecting good involvement. Those are the special report. But still to come, the sixth assessment report at the whole. We are projecting to have the scoping meeting in May in Addis Ababa. And we are hoping also all this information can feed this scoping, the whole scoping meeting in Addis Ababa. Now, Excellency, ladies and gentlemen, as you know, the IPCC is an assessment body. We don't conduct original research or observation. Our role is to assist all the research related to climate change to tell policymakers what the scientific community knows and doesn't know about climate change, its impact, future risk, and options for addressing it. Researchers are developing new methods to better observe all aspects of the climate system and understand the process at play. They are developing new models to explain how the Earth climate will react to different scenarios at the global and regional scale in the near and long term. This research is crucial for monitoring and understanding today's changes so that we can predict the weather and near-term climate better and build projections we can trust. Researching and monitoring solar resources at national and global levels facilitates effective policies to protect and manage this vital resource. These new knowledge resources are essential for sustainable development planning and strengthening resilience in our communities. I respectfully urge all governments and institutions represented here today to continue to invest in the scientific research that can strengthen our understanding of the changing climate, including the role of soil. Thank you very much. I apologize for to be long.